Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser, un livre paru aux éditions des Béatitudes. Cette semaine, je reçois au micro son jeune auteur, Thomas Bellel. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Donc j'ai lu votre livre, un livre avec plusieurs parties. Alors une première partie, pourquoi évangéliser dans la rue aujourd'hui? Une deuxième partie sur comment évangéliser? Une troisième partie sur les 50 nuances d'évangélisation. En fait, c'est un vrai petit guide qui donne au fond, je dirais, des petites pistes pour devenir peut-être le meilleur évangélisateur. Est-ce qu'il y a un bon ou mauvais évangélisateur? En tout cas, aujourd'hui, dans ces quelques minutes, je voudrais quelques réponses peut-être sur comment ne pas appréhender aussi l'expérience de l'évangélisation et en particulier l'évangélisation de rue. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce qu'il y a un profil particulier de missionnaire, Thomas Bellel? On ne s'improvise pas évangélisateur de rue du jour au lendemain. Expliquez-nous.
Alors déjà, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un bon évangélisateur? Oui, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un mauvais évangélisateur?
Bonne réponse.
Oui, c'est nous. Et donc l'idée, c'est justement ça. Dans l'évangélisation, c'est essayer d'être moins plein de nous-mêmes et de laisser passer Jésus-Christ qui est vraiment missionnaire. C'est lui qui est missionnaire. Donc voilà, le but, c'est de lui laisser toute la place.
Donc tout le travail du missionnaire, c'est de se vider quelque peu de lui-même.
Complètement. Et c'est pour ça que la prière est tellement importante avant la mission, déjà dans la vie chrétienne de manière générale. C'est vraiment la respiration du chrétien. Mais pour le missionnaire particulièrement, justement pour être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour que ce soit lui qui puisse avoir toute la place et qui puisse lui-même se communiquer. Alors après, par rapport à la question de l'évangélisation de rue, donc si vous voulez, alors ça peut être des rencontres qui sont plus, comment dire, dans notre quotidien, impromptues, etc. Moi, ce dont je parle dans le livre, c'est plutôt des moments bien définis, si vous voulez, c'est des missions. Donc, c'est-à-dire, c'est pendant un temps et pendant un lieu, on va voir des gens dans la rue dans le but de leur parler de Dieu. Et donc ça, on peut se dire, c'est très très bizarre, pourquoi on ferait des choses pareilles? En fait,
un peu comme les témoins de Jéhovah.
Oui, hein, c'est ça, on peut
oui,
se dire,
vous
un peu
en
comme
parlez
les témoins
aussi
de Jéhovah, est-ce
livre,
que ce serait pas eux qui ont créé le truc? Pas du tout, c'est Jésus-Christ et c'est les disciples qui font ça. Ça qui est intéressant, c'est qu'on revient à l'évangile, vous voyez, dans ce que j'appelle le vrai manuel du missionnaire, hein. Mon livre, c'est un manuel du missionnaire, mais c'est une pâle imitation de l'évangile. Vous avez, dans Luc chapitre 9 et chapitre 10, vous avez des envois en mission de Jésus-Christ qui envoie d'abord les 12 apôtres et puis les 72. Les 72, ça représente toute l'Église, donc c'est pour bien qu'on comprenne que c'est pas juste les 12, entre guillemets, c'est pas juste les évêques et les prêtres qui sont envoyés en mission, c'est aussi l'ensemble des baptisés. Et donc Jésus-Christ les envoie faire de l'évangélisation de rue, finalement, c'est ça, parce qu'il les envoie pour un temps donné et en un lieu donné, dans le village, machin, deux par deux, pour aller annoncer le royaume de Dieu.
Avec le bon formateur, pour le coup, permettez-moi.
Avec le meilleur des formateurs.
Donc, il ne faut pas se tromper de formateur.
Complètement.
Voilà.
Oui, oui. Le formateur est essentiel. Il faut que ce soit Jésus-Christ. Après, Jésus-Christ délègue à d'autres formateurs, mais qui doivent être reliés à ce premier formateur. Et donc, si vous voulez, c'est ça. Ça part de l'évangile. C'est, ça vient de Jésus-Christ. Et ça existe, si vous voulez, de tout temps, on va dire, dans la Bible, dans la tradition de l'Église. Et tout. Il y a toujours eu des gens qui sont partis voir d'autres personnes pour leur parler de l'Évangile. Alors, il y a la question de la parole qui est très importante, la question de la prière aussi, vraiment prier pour les gens, c'est un truc, parfois nous catholiques on a un petit peu de mal, quand quelqu'un nous confie quelque chose de difficile, on lui dit je prierai pour toi peut-être plus tard dans ma chambre, mais ne pas hésiter à prier avec les gens, voilà, c'est peut-être une petite clé aussi pour notre quotidien, prier avec les gens, avec eux, leur proposer aussi de rencontrer Dieu, d'avoir l'action de Dieu dans leur vie. Donc l'évangélisation de rue passe par la parole, par la prédication, ça passe par prier pour les gens, et ça passe aussi forcément par notre manière d'être, notre manière de les aimer, parce qu'on va être aussi jugé en fonction de ça.
Page 34, vous interpellez avec ces deux questions. À l'heure d'Internet, est-il encore utile d'évangéliser dans la rue? Deuxième question, pourquoi ne pas se contenter d'évangéliser sur Internet comme certains le suggèrent?
Je pense que beaucoup de choses sont vraiment complémentaires. C'est ça aussi, moi, mon idée, c'est pas de dire tout doit passer exclusivement par l'évangélisation de rue, il faut être obsédé par ça. Pour moi, c'est vraiment une manière qui est proposée par Jésus. Mais voilà, Dieu passe aussi de tas de manières. Enfin, moi, je me réjouis aussi de l'évangélisation par Internet, etc. J'ai vu des tas de fruits dans ma propre vie. Et donc, si vous voulez, il y a des tas de manières de faire. Moi, je propose une voie particulière et je pense qu'il est aussi adapté d'une certaine manière aujourd'hui où justement, voilà, beaucoup de choses se passent au niveau numérique et c'est important d'investir ce terrain-là, mais de se dire aussi les gens ils sont en quête de relations incarnées, qu'on les rencontre en vérité et on voit avec les sortes de crises du corona etc, on peut ressentir beaucoup de peur mais les gens ont besoin aussi de rencontrer de vraies personnes, d'avoir un regard en face d'eux, d'avoir quelqu'un qui les touche, quelqu'un qui prie pour eux et ça c'est aussi une des vraies possibilités de l'évangélisation de rue, vous pouvez voir des gens en face, vous pouvez prendre soin d'eux, vous pouvez prier pour eux, vous pouvez leur proposer quelque chose à manger. Pour moi c'est aussi voilà le Christ, il faisait comme ça, il faisait pas que parler à travers un haut-parleur ou je sais pas quoi, même si peut-être qu'aujourd'hui il aurait utilisé le moyen de communication, mais il va vraiment rencontrer les gens, quoi. Rencontrer les gens. Je pense que c'est important.
Alors, quel est l'objectif exactement de la mission de rue, de l'évangélisation de rue, au fond ?
Alors, j'irais, il y a un petit peu. Il y a un petit peu deux objectifs. Forcément,
il y a beaucoup d'audace hein, dans cette démarche.
Oui, alors forcément, ce qu'on a un petit peu derrière la tête, c'est que la personne qu'on rencontre, si possible, rencontre Dieu, devienne disciple, devienne missionnaire, etc. En fait, si vous voulez, ça c'est un peu l'horizon qu'on a en tête. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une certaine exigence, une certaine audace, de se dire, ben voilà, ce qu'on recherche... pour les personnes qu'on rencontre, c'est rien de moins que de pouvoir rencontrer Dieu, avoir la vie de Dieu en eux. Et après, de manière plus humble et plus modeste pour chaque rencontre, c'est de permettre aux gens qu'on rencontre de pouvoir faire là où ils sont un pas de plus vers Dieu, de pouvoir avancer vers Dieu. On va rencontrer des tas de gens très différents les uns des autres qui seront dans des dynamiques spirituelles très différentes, mais c'est de se dire comment est-ce que moi je peux être un outil du Saint-Esprit pour aider la personne là où elle en est à faire un pas davantage là où elle en est vers Dieu.
Alors, vous les sélectionnez comment, une fois, je dirais, partis deux par deux, en binôme, dans les rues, dans les villages, les villes. Comment se fait la sélection d'un tel ou d'un tel ?
Eh ben alors, il faut se battre contre la sélection. C'est ça, c'est notre tendance humaine. C'est de sélectionner, de dire telle ou telle personne, elle a une tronche à mieux recevoir l'évangile qu'une autre, etc.
Ça, c'est, donc là, vous parlez d'une tentation.
C'est une tentation très humaine. Voilà, le pape François parle de ça, il dit de faire des douanes pastorales, de dire celui-là, il a une tête, il peut rentrer dans l'église, il peut pas, etc. Et donc ça, c'est notre première tendance très humaine. On voit un SDF qui sent pas bon, qui a l'air d'être alcoolisé et tout ça, spontanément, on aura moins envie d'aller le voir qu'une jeune fille souriante, etc. Je veux dire, c'est très naturel. Mais c'est de dire, c'est l'intérêt de la prière de demander au Saint-Esprit de nous conduire vers les personnes qui, à ce moment-là, qui veut qu'on puisse rejoindre. Donc c'est ça l'idée, si vous voulez, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si vous sentez pas forcément de vibration mystique du Saint-Esprit qui vous dit « va voir telle ou telle personne », c'est de se dire « n'importe qui est candidat, finalement ». C'est d'essayer de voir le premier venu. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais toute personne est, entre guillemets, une cible potentielle.
Alors est-ce que vous pouvez nous partager, peut-être, parmi tous ces fruits aussi, une belle évangélisation de rue que vous avez, vous, personnellement, Thomas vécu parmi toutes les rencontres, parce qu'on parle de rencontres, on parle c'est de l'humain.
Moi, je parle souvent de la première parce qu'en fait, elle a été déterminante pour moi.
Vous en parlez dans votre livre.
J'en parle parce que en fait, c'est déterminant parce que je pense que le Seigneur avait besoin aussi de me mettre en confiance entre guillemets parce que je me lançais dans cette dynamique du fameux week-end missionnaire dont voilà, j'avais parlé précédemment à Roubaix et en même temps, voilà, j'étais absolument pas sûr de moi. Je pense qu'on l'est jamais et je pense que c'est très bien de pas être sûr de soi parce que ça permet de compter sur Dieu. Donc, je pense que ça c'est important pour l'évangélisation de rue parce que si on est trop sûr de soi, on devient un peu, je pense, orgueilleux, un missionnaire qui se prêche lui-même, qui compte sur ses propres capacités. Donc c'est très bien, si vous voulez. Si vous vous sentez faible, pauvre et petit, vous êtes les meilleurs candidats pour être des missionnaires. Dans la Bible, Dieu, il appelle que des gens qui sont pas compétents pour leur mission. Moïse, c'est le porte-parole de Dieu, il bégaye. Voilà. Donc il faut garder ça en tête. Et donc du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, le week-end de missionnaire. Et en fait, si vous voulez, donc moi, j'étais à ce moment-là dans une église protestante évangélique. Donc j'étais en binôme avec une dame qui était assez âgée, qui était très très missionnaire. Et si vous voulez, la première personne qu'on rencontre de mon premier week-end missionnaire, c'était une jeune qui venait peut-être du Maroc, quelque chose comme ça, qui, je me souviens, elle était avec une poussette assez jeune. Et en fait, la personne qui est en binôme avec moi se met à lui parler de l'évangile et tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que tout était prêt dans son cœur pour entendre ce qu'on lui disait. Et donc, c'est comme si la personne s'était convertie devant nous. Elle a accueilli l'évangile, elle ne le connaissait pas. encore la matinée avant qu'on aille la voir, et le soir, elle, je ne dis pas qu'elle le connaissait, parce que c'est progressif, mais il y a quelque chose de l'essentiel du message qu'elle a saisi, et qu'elle a voulu accueillir. Donc c'est là que je me suis dit, il y a des fruits, il n'y en a pas toujours, je n'ai pas envie de vous envoyer du rêve et tout, il y a aussi du combat, il y a des rencontres où on se prend des bides, il y a des rencontres où les choses sont parfois plus... Des fruits qui sont parfois plus modestes aussi, mais parfois vous avez des choses comme ça où vous dites... Là, je ne suis pas sorti de mon canapé pour rien. Le Saint-Esprit nous a vraiment utilisés à ce moment-là. Il nous a guidés vers la personne qui avait besoin d'entendre cette parole à ce moment-là.
C'est comme un miracle qui s'opère devant vos yeux.
Bien sûr, oui, oui. Et en même temps, voilà, les miracles, ça existe. Les Actes des Apôtres, ce n'est pas juste un livre poussiéreux d'il y a 2000 ans. C'est aussi pour nous aujourd'hui, si vous voulez. Les Actes des Apôtres, ce n'est pas seulement un mémorial, c'est aussi un programme pour nous. Donc, c'est nous les apôtres.
Est-ce qu'on y croit encore au miracle, Thomas Bellec, aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, dans la société, dans les événements aussi que nous vivons? Est-ce que le miracle, on y croit vraiment?
Alors, ça dépend qui on. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. C'est vrai que je pense que c'est important d'y croire, de dire qu'il y a vraiment une dimension surnaturelle aujourd'hui qui peut être niée par un certain excès de la société, un excès qui serait beaucoup trop rationaliste ou scientiste, qui nierait tout miracle, tout surnaturel, alors que le surnaturel existe. Mais c'est vrai aussi qu'on voit, moi je le vois beaucoup dans l'évangélisation de rue, il peut y avoir aussi parfois une sorte de spiritualité débridée, où de l'autre côté, on peut aussi parfois perdre d'une certaine manière le rationnel. Donc c'est important de se dire que les miracles existent vraiment, qui sont présents, mais d'éviter peut-être une dérive qui serait de à l'inverse parfois, de voir d'une certaine manière du miracle, d'en mettre trop vite là où il n'y en a pas.
Donc justesse aussi, donc prudence, vous relevez. Donc cette prudence demande aussi de prendre le temps aussi de discerner. En imaginant aussi que dans ce temps de formation, d'évangélisation aussi pour partir en équipe, en binôme, dans les rues, dans les villages et les villes, il y a ce temps de formation, de prière, et puis de justesse aussi dans la parole. L'Esprit Saint éclaire. On l'imagine ô combien. Thomas Bellec, vous êtes l'intervenant de la semaine. Je rappelle que ce livre, qui est vraiment au fond un bon guide pour, je dirais, se lancer dans l'évangélisation, est paru aux éditions des Béatitudes et il ne parle que d'évangélisation. Il donne au fond tout le programme pour devenir, si on est baptisé, voilà, pour devenir de vrais missionnaires. Je vous donne rendez-vous ici même. À la même heure. Au revoir. Troisième émission, et toujours avec Thomas. Cette semaine et dans cette série, on parle et on brûle pour devenir missionnaires et de vrais évangélisateurs. On parle de mission et puis on rappelle aussi que la mission n'est pas impossible. Je reçois cette semaine et je salue très vite Thomas Bellec. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors vous avez écrit ce premier livre et je crois que vous préparez la sortie d'un deuxième livre.
Qui est
déjà sorti, voilà. Donc je ne suis pas sur le thème de l'unité.
Exactement.
Voilà. Donc, j'ai fait le choix de la mission cette semaine. Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser aux éditions des Béatitudes. Parmi tous les chapitres, vous décrivez, et c'est excellent, vous décrivez les sept fausses bonnes raisons, au fond, pour ne pas évangéliser, au fond, les bonnes raisons pour éviter l'évangélisation, qui est toujours une audace, une prise de risque. La première est je n'ai pas le temps. N'ai pas le temps.
C'est le grand problème aujourd'hui.
La vie va vite, le travail, la famille, les enfants, les activités, peut-être des engagements aussi dans des groupes de prière. Alors comment prendre le temps de partir évangéliser dans les villes et les villages, Thomas? Une fausse excuse?
Alors première chose, notre temps, c'est déjà un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Et souvent, en fait, moi, ce que j'expérimente, c'est quand on essaye, entre guillemets, de lui rendre, c'est-à-dire de lui offrir notre temps, nos activités, tout ce qu'on vit, de l'offrir comme une offrande, on consacre tout ce qu'on fait, même ce qui nous paraît anodin, au Saint-Esprit. En fait, il peut l'utiliser même de manière missionnaire. Et d'une certaine manière, souvent, parfois, on se dit ça aussi pour la prière, j'ai pas le temps de faire l'oraison, etc. Souvent, quand on veut vraiment faire quelque chose pour Dieu, il nous donne l'occasion de le faire. C'est lui qui va arranger notre planning et notre emploi du temps. Après, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas tous le même appel. Ça, c'est important de se le dire. On a chacun notre vocation, on a chacun notre vie, nos engagements. C'est important de les assumer. C'est ce qu'on appelle notre devoir d'État. C'est important non plus de pas être dans le rêve de se dire, bah voilà, si j'ai une lourde vie de famille, que j'ai 8 personnes à charge, de dire je vais faire de la mission à plein temps, voilà, peut-être.